midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, mon invité aujourd'hui est Imane Bassala. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Écrivain, alors je ne sais plus si on dit écrivaine, autrice aujourd'hui.
Auteur.
Journaliste et professeur de lettres, et vous publiez à l'école des enfants malades, chez Kéro, un livre écrit dans une chambre de bonne au 6e étage, c'est ça?
Oui.
Ah, c'est vrai ça, hein?
C'est vrai, ouais. De l'immeuble où a vécu Françoise Dolto. La grande psychanalyste spécialiste de l'enfance.
Mais elle était...
qui a changé toute notre... Mais elle était dans les étages des riches, un peu plus bas, oui.
Vous êtes au 6e sans ascenseur. Voilà. C'est l'étage des
domestiques. L'escalier de service, ouais. Voilà.
C'est un luxe chez vous, d'ailleurs, cette chambre de bonne.
Bah oui, tout à fait, parce que je n'ai pas non plus des revenus exceptionnels, mais je me suis dit qu'il fallait un endroit à moi pour écrire, fermer la porte au nez du quotidien, du réel, et surtout des braillements de mon petit garçon. Voilà.
Vos éditeurs vous demandent toujours des témoignages sur votre vie d'arabe.
Oui, ça a été compliqué pour moi parce qu'à un moment, il s'agissait de soit faire des choses qui soient liées au monde arabe, soit arrêter pratiquement, c'est ce qui m'a été dit lors d'un entretien. Je me suis entêtée, ou alors je fais des sujets de société comme la vie sexuelle des écrivains, la place des écrivains, ou aujourd'hui à l'école des enfants malades, et là, ça fonctionne. Mais en tout cas, en littérature, ça reste difficile de percer l'opercule du communautarisme quand on est écrivain issu du monde arabe. Alors, on peut se dire que ça peut être bien.
Non, c'est un super sujet, parce que finalement, on n'est pas obligé d'écrire sur le monde arabe en permanence.
Oui, voilà, ou mes origines, ou mes malheurs, ou ceux de ma mère, de mes frères, mes soeurs. Ça reste compliqué. C'est-à-dire qu'on se rend compte que même une autrice ou une auteure ou une écrivaine comme Leïla Slimani, finalement, dans son chanson douce, elle intègre toutes ces réflexions-là. D'abord, l'héroïne, elle s'appelle Myriam. Ensuite, elle se demande si elle va engager une nounou arabe. Il faut toujours mettre un peu d'arabe. Et en même temps, comme me disait mon ami écrivain Mabrouk Rachedi, pourquoi pas, parce qu'on le connaît le mieux et que les autres parlent d'autres choses. Voilà. Mais c'est une réflexion. La liberté.
Spéciale dédicace à lui, d'ailleurs.
Spéciale dédicace, Mabrouk, oui.
Bon, on ne va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où on va. C'est de qui?
Alors, c'est Hemingway, mais alors certains disent que c'est Cromwell. C'est une vaste discussion, mais en tout cas, c'est ce qui a soutenu ma vie jusqu'à aujourd'hui, je pense.
Alors, vous avez une première vie, donc vous êtes journaliste.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a mal tourné dans cette histoire-là?
Alors, j'étais journaliste pour des agences de presse, puis chez Jeune Afrique. Et puis, chez Jeune Afrique, ça s'est très, très mal passé, même s'il a reçu beaucoup de gens super et qu'il continue à recevoir beaucoup de gens super. Et je me suis dit, j'ai démissionné, puis je me suis retrouvée au chômage. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, parce que journaliste, on peut rester au chômage très longtemps, comme vous le savez. Et j'ai passé le concours.
On ne parle pas toujours de la précarité de ce métier aujourd'hui. C'est très précaire, hein,
c'est
comme métier.
Très précaire, ouais. Oui, ça fait partie des métiers les plus précaires, de plus en plus, oui, d'autant que tout le monde aujourd'hui donne des choses sur la toile, donne des informations, croit tout savoir, et le vrai journaliste, comme le vrai photographe, c'est un vrai métier. Et donc, j'ai passé des concours, et je les ai eus, mais j'étais un peu verte de les avoir eus, parce que finalement, prof, je ne voulais pas tant que ça le faire. Voilà, c'est juste pour continuer à apprendre des choses et pas glander une année.
Alors, vous, aujourd'hui, vous êtes prof, mais vous êtes une prof dans une spécialité particulière. Vous êtes prof des enfants que vous appelez, entre guillemets, cassés.
Ouais, des enfants malades. Alors, j'ai un peu pratiqué plusieurs, tout en restant pas longtemps prof. Lorsque j'ai eu les concours, j'avais déjà publié Prof Academy pour lequel vous m'aviez déjà reçu ici plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. Oulala.
Non, ne me dites pas ça.
si. Nous sommes tous les deux des vieux de la vieille, on va dire. J'avais déjà quand même balayé plusieurs milieux scolaires, même dans une courte expérience, qui était aussi bien le milieu horticole que le milieu de banlieue classique, que le milieu de banlieue difficile, etc. Et bon, j'étais partie en me disant plus jamais ça. Et finalement, bon, il y a 4-5 ans, je me retrouve seule avec mon fils. Je me dis, journaliste écrivain, c'est rigolo, mais ça paye pas forcément la mutuelle et tout ce qu'il faut tous les mois. Et là, il va falloir retrouver du boulot à l'éducation nationale, peut-être.
Et vous retournez vivre chez votre mère.
Et je retourne vivre chez ma mère. Donc, j'ai la totale. Pendant que je mets le cartable à mon fils, ma mère me met mon sac à dos sur le dos. Et je me dis, c'est pas possible, il faut que je me sorte de là. Bon, voilà, je me suis dit, à plus de 40 ans, je me suis dit, bon, allez, prof, au moins, c'est un métier sûr. Et je réponds à une annonce qui parle de pédagogie différenciée. Je ne sais pas où je tombe. Je me retrouve au milieu d'une école très particulière où on se rend au chevet des enfants malades à travers toute l'Île-de-France et de diverses maladies physiques et mentales. Et à chaque fois, il faut adapter tout l'enseignement à ces malades-là. Et c'est quelque chose.
Et vous allez chez ce que vous appelez les enfants cachés, ceux qu'on ne voit jamais.
Oui, parce que
dans la rue.
Oui. Ouais, mon premier élève, j'ai cru que j'allais mourir. Le pauvre, il avait une pathologie génétique gravissime qui le rendait vraiment, enfin, d'une apparence difficile à appréhender pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est des enfants qu'on voit pas dehors, quoi. Ils sont hyper emmitouflés, etc. Et puis bon, et puis ils peuvent pas vraiment sortir parce qu'ils sont fragiles, même dans leur fauteuil accompagné, etc. Et je me suis dit, waouh, ouais, c'est dans ce boulot que je tombe. Oui, je dis, en fait, quand on se confronte à des enfants comme ça, une apparence aussi déshumanisée par le mal et la souffrance, en fait, de mon expérience, c'est qu'on les trouve toujours beaux à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'il y a toujours le choc et puis après, il y a l'humanité qui revient, et heureusement. Mais quand on n'a pas comme ça de certificat, enfin en tout cas de certification médicale ou sanitaire, etc., se rapprocher de certaines pathologies très lourdes, c'est très douloureux. Et évidemment, j'étais au maximum avec ce premier élève. Je me suis dit, je peux pas. Enfin, j'en ai pleuré 3 jours. Quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. Quoi, que...
et ça vous confronte à vos propres réticences, à vos propres limites aussi.
Oui,
c'est ce que vous expliquez.
Oui, c'est
vous
ça.
Êtes très franche, hein, d'ailleurs, parce que ouais. C'est des questions qu'on n'aborde jamais. Hein,
oui, c'est-à-dire que
sur le handicap.
Bien sûr, le handicap et la maladie, c'est aussi des choses. Il ne sait pas comment dire. On a l'image d'Épinal, du petit enfant ou de l'adulte handicapé dans sa chaise, mais. La réalité physique de ces souffrances-là, la réalité quotidienne de comment on le fait manger, comment on le fait pisser, comment tout est.
C'est ce que vous racontez dans votre livre.
Voilà.
Et
c'est vrai que tant qu'on n'a pas ça dans sa famille la plus proche, on ne sait pas. On ne sait pas.
Vous prenez l'image dans votre livre d'un papa qui doit porter sur son dos son enfant alors que l'ascenseur est en panne et c'est au sixième tous les jours.
Oui.
Ça aussi, c'est des réalités.
C'est des réalités.
C'est que quand on est riche et qu'on a des ascenseurs et qu'on a tout le personnel qui va, bah, ça fonctionne. Et puis, il y a d'autres réalités où il y a moins de moyens aussi.
Disons que pour les maladies physiques et les handicaps physiques, l'argent fait une différence dans le sens où on peut avoir une voiture adaptée, des soins, des aides pour les parents, des vacances, des choses pour se remettre un peu. Et effectivement, c'est pas la même chose pour celui qui va porter son enfant, l'attacher au fond de son camion, etc., que celui qui a tout d'adapté. Ça ne veut pas dire que l'enfant va être plus heureux, mais en tout cas, il y a des adoucissants. Dans la maladie psychique, telle qu'on est aussi confronté dans mon école...
Tout le monde est égaux, là.
C'est ça. Un dépressif, ce n'est pas parce qu'on va l'emmener en VIP à Disney qu'il va être heureux. Donc, ou un enfant autiste, voilà. Ça, c'est vraiment le cœur et l'empathie et l'attention qui vont faire les choses.
Alors, l'école dont vous parlez, c'est l'école de la rue Merlin. Je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée.
Oui,
hein.
Alors,
qui est liée à l'éducation nationale par un contrat d'association. J'ai tapé toutes les écoles, j'ai rien trouvé.
Ouais. Elle fallait me demander. C'est l'école, en fait, c'est une école fondée par une dame qui s'appelle France Quéré. Donc, c'est l'école France Quéré qui est rattachée à l'association Votre École Chez Vous. Parce qu'on va vraiment chez les enfants partout. Alors, ça peut être aussi parfois en hôpital ou dans les centres médico-psychologiques. Et je l'ai appelée l'école de la rue Merlin parce que se trouve rue Merlin à Paris. Mais et puis parce que je trouvais que ce Merlin en chanteur, c'était plus mignon.
Vous êtes partie dans ce métier à la rencontre de la maladie et vous dites que finalement, la maladie, elle est très inventive. Il y a vraiment toute forme de maladie qu'on ne soupçonne pas.
Qu'on ne soupçonne pas, oui, parce que moi, à chaque fois, ma directrice m'appelle. Parce qu'en fait, on a des départs en cours d'année, parfois des élèves qui ont de la chance de pouvoir revenir à l'école plus classique, parce que nous, c'est notre souhait. Il y a des enfants qui peuvent revenir parfois et qui ont une maladie temporaire et qui reviennent. Il y a des enfants qui ne pourront jamais retrouver une structure classique. Et donc, ma directrice, dans ces cas-là, quand il y en a un qui part, elle m'en trouve bien sûr un autre, parce qu'il y a beaucoup d'enfants malades, malheureusement, qui n'ont pas de situation scolaire, et ça, c'est un drame de notre République. Et à chaque fois, elle me dit...
Même si, officiellement, on dit que tout le monde...
Ouais, c'est un bricolage tout le temps, c'est une injustice tout le temps, et même nous, on n'a pas forcément toutes les matières à donner à chaque enfant, toutes les matières qu'il devrait avoir, parce qu'on suit, même de façon très adaptée, les programmes scolaires, on essaie que... de faire que nos enfants, nos élèves aient le bac. Et à chaque fois, ma directrice m'appelle en disant, bon voilà, alors tel élève, tel cas, est-ce que tu acceptes? Et parfois, je dis, ouh là là, c'est quoi ça? Je regarde sur Google, je me dis, c'est quoi cette maladie? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cet enfant, quoi? Mais ça me donne une vraie combativité parce que, en fait, aussi, ok, tous les élèves n'auront pas des diplômes, etc. Mais en tout cas, ils pourront tous avancer et faire, parce que moi, je suis professeur de français, je vais pas faire du babysitting, je vais faire du vrai français. Et là, il y a toujours quelque chose à donner, quoi. Ça va pas être forcément okay, la super dissertation, même si ça arrive. Je souligne, moi, j'ai un élève paraplégique qui est doué comme un dingue, qui a eu 18 au bac et français, etc. Et ça vient
c'est Aurel
de lui. Ouais, c'est Aurel.
Enfin, c'est celui que vous appelez Aurel.
Celui que j'appelle Aurel. Voilà.
Vous donnez des prénoms. Mais
voilà, je donne des prénoms qui écrit de façon belle à pleurer. Et donc, je sais plus où j'en étais parce que j'ai pensé en escalier.
Mais
on était où?
On disait ils n'auront pas tous.
Surtout, c'est dur en ce moment.
Non. Vous disiez ils n'auront pas tous des diplômes.
Mais on peut toujours faire quelque chose. Voilà. C'est ça. En fait, à la fois, on se sent plus impuissant quand on se dit qu'on peut les faire avancer et leur donner quelque chose de la matière, quel que soit leur état. Ça, c'est énorme. Bon, après, ça m'est arrivé une fois ou deux avec un élève où vraiment il y avait la pathologie était telle pour que les apprentissages vraiment n'entraient pas. Mais ça reste rare, quoi.
C'est-à-dire qu'en fait, vous allez. Alors, majoritairement chez les gens quand c'est possible, ou sinon dans des institutions ou.
Oui, voilà, les centres médico-psychologiques, parfois à l'hôpital, etc. Mais c'est vrai que majoritairement, et je raconte ça dans mon livre, le long du livre, on entre chez les gens et ça c'est particulier parce que des milieux socio-culturels, pardon, complètement différents, quoi.
C'est comme les.
Puis dans des gens médecins, de toutes les nationalités. Oui, c'est ça, c'est exactement ce à quoi j'ai pensé.
Les gens qui consultaient à domicile avant, vous voyez.
Oui, mais même SOS médecin. Enfin, c'est ce à quoi j'ai pensé au début, parce que, enfin, sauf que à la différence que nous, on va les suivre à l'année. Mais SOS médecin, et quand il débarque, il est paré à tout, quoi.
On rentre chez les gens et vous dites que c'est une aventure à chaque fois
c'est
que
une
de
aventure
rentrer
à
chez
chaque
les gens.
Fois, ouais, ouais, bien sûr. Puis c'est très intéressant pour le coup pour l'écrivain que je suis parce que ça enrichit tout le temps, quoi. C'est des milieux auxquels parfois, dans lesquels parfois je ne serais pas rentrée spontanément. Puis parfois je me retrouve le matin à Sarcelles, l'après-midi dans le 8e. Et à chaque fois je fais un petit truc sympa à Sarcelles. Je fais le petit marché dans le 8e. Bon, j'entre parfois dans une mairie, un truc comme ça, une bibliothèque. Je découvre à chaque fois. Oui, en fait, je suis un peu du tourisme. Oui, c'est un peu ça derrière, quoi, qui se joue parce que je me fais plaisir à chaque fois.
Avec votre passe Navigo.
Exactement.
Iman Bassala est notre invité à l'occasion de la sortie à l'école des enfants malades. C'est chez Kero et le Book Club l'a vu et lu pour vous.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
C'est Iman Bassala qui est notre invité. Un des frères d'un de vos élèves vous appelle la prof des handicapés. Ça vous va comme ça?
Oui, c'est drôle parce que en fait nous on enrobe tout le temps cette réalité de l'enfant différent, etc. Parce qu'on se dit c'est comme pour toutes les différences, que ce soit le racisme, etc. On va pas dire le noir, l'arabe, etc. On essaie de se débrouiller pour trouver des choses. Et je frappe à la porte et j'ai le petit frère qui hurle maman viens voir, c'est la prof pour handicapés. Voilà, donc pour eux c'est souvent intégré et ils n'ont pas besoin d'autant d'enrobage parce que c'est intégré. Mais nous, on a toujours peur de heurter, de faire mal. Et puis parfois, je dis des bêtises. Par exemple, à cet enfant-là, typiquement, je lui ai dit, le premier jour que j'ai eu avec lui, alors qu'il ne pouvait pas utiliser ses mains, je lui ai dit, tiens, prends un crayon.
J'ai expliqué qu'il a des moignons. Enfin,
oui, c'est ça. Le pauvre, il a en fait une maladie génétique qui fait que sa peau, elle est réduite. Il ne peut pas bouger les membres de plus en plus. Et je lui ai dit, prends un crayon. Et c'était drôle parce qu'il m'a répondu plus tard, madame. Je peux enchaîner sur pas de bras, pas de chocolat, mais il était parti pour rigoler, quoi. Et en fait, ils ont souvent beaucoup d'humour sur leur maladie, quoi. C'est ça qui est dingue. Ils ont vraiment beaucoup d'humour. Par exemple, Aurel, mon élève paraplégique, et il me dit, madame, c'est pas comme si j'allais m'enfuir en courant, là. Parfois, on a. Faut les prendre comme des êtres doués d'une intelligence souvent, même parfois plus vive que la nôtre, parce qu'ils sont tout le temps confrontés à des questions extrêmes sur parce qu'ils vivent des choses extrêmes. Donc
que eux n'évacuent pas en fait.
Voilà. Donc quelque part le rire, la franchise, etc. C'est pas mal quoi.
Et vous racontez votre expérience dans un livre qui s'appelle « À l'école des enfants malades » chez Kero. Oui. À quel genre appartient votre livre ? C'est quoi ? C'est une autofiction ?
Oui, je pense que c'est ça. En fait, le récit est à 99% complètement vrai, mais pour protéger les élèves ou les autres enseignants, etc., parfois j'ai fait un petit biais sur la réalité, sur la localisation géographique ou des choses comme ça. Quoi.
C'est le livre d'une héroïne sociale du quotidien hein, qui se promène, on l'a vu tout à l'heure, en Ile-de-France, qui se promène beaucoup avec son passe Navigo. Qu'est-ce que vous appelez une héroïne sociale du quotidien ?
Alors, une héroïne sociale du quotidien, si je le disais un peu ironiquement, parce que je disais justement qu'on peut être une héroïne sociale du quotidien, c'est-à-dire faire tout bien, galérer, parce que c'est comme une galère. Parfois, on se tape 4 heures de transport et Dieu sait que les transports en Ile-de-France, c'est quelque chose. Et en même temps être se sentir hyper nul à la maison avec le handicap de sa propre maman, hyper nul comme mère alors qu'on est censé avoir des réponses pour des enfants qui vont très mal, on se dit comment j'y arrive pas avec mon chiard qui est censé aller très bien, enfin ça c'est hyper compliqué à vivre, donc on se dit je fais tout bien, je coche toutes les cases, mais je rentre, j'écoute à peine, j'aide pas trop ma mère, parfois je lui explique elle est assez sourde. Parfois, quand elle n'a pas compris au bout de 3 fois, je cherche pas à lui faire comprendre une 4e, alors que toute la journée, je passe mon temps à trouver comment parler, même presque au sens philosophique, en tout cas, comment arriver à faire passer des choses à mes enfants malades. Et le soir, je parfois, comme j'étais retournée chez ma maman, j'en avais marre des handicapés, j'en avais marre des chiards et du mien en premier, et j'avais pas de patience, et voilà, c'était un peu.
Faites sans filtre, en fait.
Ouais, voilà. C'est-à-dire, je voulais pas me positionner en la personne forte de cette histoire dans l'école des enfants malades. Je voulais raconter que les faibles, c'était pas que ceux qui étaient atteints de faiblesse, c'était chacun de nous et qu'il fallait chercher à se dépasser chaque jour. De même que quand j'en avais marre de mes élèves malades parce que c'est trop dur parfois, parce que oui, j'ai acquis une faculté à trouver des raisons, des forces, etc. Mais ça a été longtemps, en tout cas la première année, ça a été assez déprimant. Mais je me disais, si eux ils continuent, toi tu continues et puis point barre.
Mais où vous allez la chercher l'énergie quand vous en avez plus?
En fait, déjà, chaque fin de cours, j'essaie de trouver un truc sympa à côté, parce que c'est l'idée de faire le cours, de sortir de là. Parfois, je me retrouve au fin fond du Transilien, etc. Et la déprime, par exemple, je donnais des cours une fois à une élève qui était à Belloy en France et aux limites de la Picardie. Et en sortant, il y avait un champ magnifique. Et à chaque fois, par exemple, je traversais ce champ. Déjà, je trouvais un truc immédiat de proximité pour me faire plaisir. Ou tel élève qui habite à côté d'une super pâtisserie, je vais m'acheter une belle pâtisserie là-bas. Enfin,
à
des choses comme ça.
En l'occurrence.
Ouais, voilà. C'était plus trouver des petits moments de réparation un peu partout, parce que franchement, quand il fait froid, qu'il pleut, qu'on est avec son sandwich tout raplapla dans le métro, et encore aujourd'hui avec le Covid, on n'a même plus le droit de manger le sandwich tout raplapla dans le métro. C'est un peu parfois la misère, quoi. C'est vrai que moi, je n'étais pas du tout préparée à faire ce genre de job-là, quoi. Donc.
Quand vous rencontrez des amis qui vous ont connu du temps de votre gloire journaliste, et que vous leur dites ce que vous faites aujourd'hui. Quel regard ils portent sur ce que vous faites ? Est-ce qu'ils sont fiers de vous
ou
pas ?
Alors c'est vrai que la plupart sont plutôt admiratifs. La plupart sont plutôt admiratifs parce que bon, on est quand même dans une période de vie où tout le monde se dit je vais être plus humain, je vais comprendre plus les gens, je vais aider plus, etc. Mais oui, il y en a quand même quelques-uns qui me regardent d'un air comme ça. Mais qu'est-ce que tu fiches là, toi, là-dedans ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu arrives là-dedans ? Etc. Donc, ou qui ont réalisé seulement avec ce livre à quel point ce que je faisais, c'était difficile, quoi. C'était pas, c'était pas un truc comme ça, et tombé sur la tête, mais elle fait du bien aux gens, etc. C'est, ils ont réalisé que le terrain était très, très miné quand même, quoi.
Faut justifier ce qu'on fait dans ces cas-là.
ouais, je me suis retrouvée quand même à justifier déjà pour moi-même, parce que c'est vrai que c'est des métiers, les métiers du social sont très mal payés.
Alors ça, vous l'expliquez, c'est le SMIC. Hein,
c'est SMIC, d'autant que moi, comme j'avais démissionné de l'éducation nationale, j'ai même pas mes points d'avant, à dire. Mais en même temps, j'ai une vie bordélique, donc à moi aussi de l'assumer.
Vous avez plusieurs vies dans votre vie, donc voilà, on en parlera tout à l'heure.
Comme beaucoup de gens, j'imagine, aujourd'hui, mais bon, je pense qu'il y a des trucs un peu... Voilà.
Mais c'est dur et mal payé, il faut le dire.
Voilà, c'est dur et mal payé, mais comme souvent, donc bravo tous ceux qui font plein de choses aujourd'hui, parce que vraiment, c'est pas possible, quoi. Et justement, en me rendant compte, parce qu'en fait, il y avait une gilet jaune qui affichait son salaire sur le dos en hurlant qu'elle était super pauvre et tout, et moi, à la télé, moi, je me suis dit, waouh, mais je gagne pareil, je suis super pauvre, en fait. Parce que je réalise pas toujours, voilà.
Bien. Alors, on va parler du regard sur le handicap. Vous dites qu'on ne change pas de regard sur le handicap. Pourquoi ?
On ne change pas, je dis qu'on ne change pas de regard sur le handicap, mais qu'on en construit un.
Qu'on s'en construit un plus tôt, voilà.
Oui, qu'on s'en construit un plus tôt et que ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Parce qu'on ne peut pas imaginer toutes les situations, on ne peut pas imaginer ce que vivent les gens chaque moment. Et franchement, moi, ça a mis peut-être... Parce qu'on a toujours une histoire longue avec la maladie, le handicap, même de loin, quoi. Enfin, il y a 20 ans, j'étais allée interviewer une fille pour le...
Pour le Téléthon.
Pour le Téléthon, voilà. Et je lui dis, bon, on se donne rendez-vous à quel café? Enfin, c'était débile. Elle habitait Osny. C'était un truc de dingue pour elle de venir avec tous les ascenseurs qui marchent pas. Enfin, je me suis rendu compte en emmenant mon fils en poussette. Il y a aucun ascenseur qui marche, quoi. Et c'est un parcours du combattant. Qui a envie de sortir d'Osny, comme ça? Et donc, ouais, elle m'a un peu recadré, quoi. C'est toi qui viens, quoi. C'est, déjà, le bus, je peux pas rentrer dedans pour aller au RER, quoi. Enfin, bon, bref. Et tout est un peu comme ça, quoi. Et encore, moi, je considère que je suis partie plutôt des gens un peu empathiques au départ. Mais il y a des choses auxquelles on ne pense pas.
Votre livre m'a donné envie de réécouter Philippe Châtel, ma lycéenne. Est-ce que ça vous va?
Ah oui.
Vous savez pourquoi?
Oui.
Il y a un chapitre qui s'appelle Ma lycéenne.
Oui, oui, ouais. Oui. C'est une chanson qui m'a beaucoup bercée et qui me berce encore. Oui. C'est parce que j'ai aussi des lycéennes qui ressemblent à sa lycéenne.
Ouais, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas entendu Philippe Châtel. Et la chanson n'a pas du tout vieilli.
Non.
Rien qu'un dimanche au bout de la semaine, et de l'encre bleue plein les mains, et des récréations qui traînent au milieu des journées sans fin. Parfois tu m'écris une lettre où tu ne signes que d'un point. Ça met du soleil à ma fenêtre, mais pour toi, ça ne résout rien. Je te réponds, ma lycéenne, moi qui ne suis plus lycéen. Tu veux quelqu'un qui te comprenne. Je te comprends, j'essaie au moins. Derrière un maquillage timide, un peu de noir autour des yeux, vient se cacher la peur du vide. Tu penses nous, mais tu dis je. Bien sûr tes parents tu les aimes, mais tu dis qu'ils ne comprennent rien. Ce n'est pas l'avenir qui t'entraîne, mais c'est l'ennui qui te retient. Je te réponds, ma lycéenne, moi qui ne suis plus lycéen. Tu veux quelqu'un qui te comprenne. Je te comprends, j'essaie au moins. Même si ta vie commence à peine, t'as déjà plus envie de rien. Et ce frisson que tu étreignes n'est qu'une larme sans chagrin. Ta chambre est une grande scène, mais les héros sont en photo. Et la voix qui te dit je t'aime n'est qu'une chanson à la radio. Je te réponds, ma lycéenne, moi qui ne suis plus lycéen. Tu veux quelqu'un qui te comprenne. Je te comprends, je sais, au moins. Dans tous les disques et tous les livres qui sont le décor de tes nuits, tu cherches une raison de vivre comme un écho à ton ennui. Je n'ai de toi que quelques lignes, quelques mots écrits à la main. Mais à mon tour, je te fais signe, même si tu m'oublies demain. Je te réponds, ma lycéenne, moi qui ne suis plus lycéen. Tu veux quelqu'un qui te comprenne. Je te comprends, j'essaie au moins. Le temps qui passe me fait de la peine, et il nous sépare déjà. Mais tes angoisses puis les miennes viennent à se ressembler parfois. Je te réponds, ma lycéenne, j'aimerais être lycéen. Je veux quelqu'un qui me comprenne. Si c'était toi, ce serait bien.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
C'est le Book Club d'Iman Bassala, aujourd'hui écrivain, journaliste et professeur de lettres. Vous racontez dans un récit à l'école des enfants malades chez Kéro votre quotidien de prof pour enfants cassés, comme vous le dites, la professeure des enfants handicapés. Alors c'est pas toujours glamour, vous l'expliquez, et puis vous expliquez aussi les kilomètres que vous avalez, hein, parce que là on vous suit donc dans le RER, vous découvrez les joies du RER, RER et du bus parfois.
Du bus qui part pas quand il y a la neige, non. Et puis c'est vrai que pour moi c'est particulièrement épuisant parce que je regarde vraiment les gens dans les transports et donc j'absorbe beaucoup émotionnellement de choses et c'est vrai que c'est... puis ce qui est très dur aussi, enfin. C'est banal à dire, mais en même temps, le vivre au quotidien, c'est le nombre de miséreux que l'on croise, de mendiants, le long du chemin. Au bout de la 20e personne, le 20e enfant qui vous tend la main pour vous demander une pièce, vous voyez des gens allongés partout, par terre, en plein Paris. On se rend compte aussi qu'il y a plusieurs Paris, parce que quand je vais dans le 19e ou Porte de la Chapelle, cette misère-là, en plus de la misère de mes élèves, la misère de maladie de mes élèves, au quotidien, elle est usante, ouais, parce qu'on se sent... Alors, on peut apporter des choses, mais on se sent impuissant aussi, quoi, quelque part, à changer ce monde qui traîne, auquel on s'habitue à nos pieds, quoi. Enfin, c'est parfois je pique des crayons à mon école pour les distribuer à un enfant ou deux, mais après.
Mais vous en avez jamais des crayons, quoi. Vous avez la réputation de n'avoir jamais de stylo sur vous.
J'ai jamais mes affaires sur moi. Je pique toujours à mes élèves. Parfois, je me fais envoyer bouler, mais je reçois des crayons de couleur, parfois des cahiers à distribuer. Et c'est vrai que parfois j'en prends quelques-uns à donner sur la route comme ça. Mais voilà, c'est rien, quoi. On peut rien faire. Et puis qu'est-ce qu'ils en ont peut-être à faire, des crayons et des feuilles, quoi, ça.
En lisant votre livre, j'ai changé de regard sur la phobie scolaire. Et on imagine d'abord rarement ce que c'est que la phobie scolaire. Et à quel point c'est invalidant pour les enfants qui en souffrent.
C'est vraiment un trouble invalidant et envahissant. C'est souvent des bons élèves. Moi, je suis contente quand j'ai un phobie scolaire parce que je me dis on va pouvoir faire du français... à fond, quoi, vraiment de la littérature comme il faut. Mais c'est reconnu médicalement. Souvent, on a ignoré ça parce qu'on se dit, tiens, pourquoi il veut pas aller à l'école? Pourquoi il pleure? Pourquoi? Sauf que les choses peuvent devenir graves au point où l'enfant s'évanouit, quoi, à des vrais, enfin, développe de véritables souffrances et le médecin finit par délivrer un certificat médical. Et c'est une maladie en cours d'augmentation aussi. On peut se demander aujourd'hui pourquoi est-ce qu'aujourd'hui de plus en plus d'élèves souffrent de cette phobie scolaire et c'est terrible parce que c'est des enfants mais souvent bien sûr très sensibles mais qui ont une place de première à l'école, donc alors on dit souvent c'est du harcèlement etc. C'est pas que ça, mais il y en a, c'est que ça existe, oui, ça existe, des enfants sensibles qui n'ont pas accepté d'être traités d'une certaine façon. Mais c'est pas que ça, non. Ça peut être une maîtresse qui a dit, parfois aussi, dès l'enfance, une maîtresse qui a dit un truc qui n'est pas passé. Ça peut être des choses inexplicables. Ça, la tête invente d'autres choses, prend le relais de la réalité. Ça, c'est difficile pour ces gamins-là.
Et alors, on pourrait s'imaginer que pour ces enfants, c'est bien de pas aller à l'école, et vous dites qu'on n'imagine pas à quel point c'est une déchirure pour eux de pas aller à l'école.
Oui, c'est une déchirure, c'est une déchirure, et en plus l'angoisse elle est envahissante parfois, même de voir un manuel scolaire, c'est dur pour eux quand on les amène, quoi. Donc c'est une déchirure parce qu'ils voient la vie passer, ils sont sur les réseaux sociaux, ils voient les autres, petit à petit l'écart se creuse avec les copains, petit à petit les copains ne viennent plus. Et comme je vous disais, comme en plus c'est souvent des élèves qui étaient bons à l'école, il y a un truc horrible qui se crée et qui s'installe parce que en fait plus l'enfant est écarté de l'école, plus ça va être dur de revenir. Donc parfois on essaie de faire revenir petit à petit parce que encore une fois notre but c'est de faire revenir au maximum
à l'école, donc
à l'école, c'est de remettre normal, classique, ouais, c'est quand même le but premier pour la socialisation, pour leur équilibre. Mais c'est un drame pour la plupart des parents parce que vous imaginez du jour au lendemain votre enfant parfois dès la primaire qui peut plus aller à l'école. Moi j'en ai un, ça fait depuis qu'il a 7 ans, c'est le parcours de croix pour sa mère. Le temps qu'en plus la maladie soit, enfin la pathologie soit vraiment reconnue,
c'est-à-dire qu'on a un enfant qui tous les matins ne veut pas aller à l'école,
il développe des troubles sévères. Ouais. Enfin c'est des vomissements, c'est des sueurs froides, et parfois ça peut aller jusqu'à l'évanouissement. Oui, l'école commence à représenter de plus en plus pour cet enfant-là quelque chose, un mouroir. Oui, c'est comme si vous l'emmeniez à mourir. Et là, c'est questionnant sur notre société, quoi. Parce que pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire de l'école quelque chose de rassurant? C'est les plus sensibles qui craquent, mais derrière, ça veut dire que les autres, ils sont pas très à l'aise non plus.
Et vous, est-ce que vous arrivez à expliquer? Alors, vous avez une autre phobie. C'est la phobie des escaliers mécaniques, si vous voulez qu'on en parle. On a quelques minutes pour exprimer votre phobie. Mais c'est embêtant quand on prend le métro.
Ouais,
alors par contre, ça fait les mollets, par contre.
Ça fait les mollets, ouais, c'est ça. Non, puis c'est pareil. Enfin, c'est toujours en temps qu'on se dit, oui, j'ai la phobie d'escaliers mécaniques, donc pas des ascenseurs. Mais certains ont la phobie des ascenseurs. Pas tous les avoir. Et parfois, il n'y a pas de solution. Et puis, alors quand on va voir comme ça, parfois, quelqu'un dans un supermarché ou autre pour lui dire où sont les ascenseurs ou sur les escaliers, et qui dit bah non, mais regardez, il y a l'escalier mécanique. C'est difficile à expliquer. Non, je suis phobique.
Vous avez peur de que votre pied soit pris dedans?
Oui, c'est ça. Bah, moi, je le vois. Je vois une descente, je vois les chutes du Niagara. Je vois pas un escalier automatique quand je suis en haut, quoi. Et plus j'y pense, plus ça grossit. Et c'est là où on peut comprendre toutes les maladies mentales. Mmh. C'est ça. C'est que plus on y pense, plus ça grossit dans la tête. Et c'est pareil parce que en tant que maman, enfin, je reviens souvent à ça, mais c'est bon. Je dis toujours à mon fils, il faut vaincre ses peurs, etc. Et quand je me retrouve en haut d'un escalier mécanique, il dit, bon, bah, maman, c'est rien, ça. Donc, effectivement, c'est pour ça que ça aide aussi à comprendre que dans la tête des autres, il ne se passe pas la même chose que dans notre propre tête, quoi.
D'ailleurs, votre fils, lui, à son tour, a été confronté au handicap dans sa classe avec une enfant trisomique. Et quelles sont les questions qu'il vous a posées, lui, finalement, par rapport à cette petite fille?
En fait, il me racontait, alors, cet enfant trisomique qui vient à l'école avec une AVS. Aujourd'hui, on dit une AESH, c'est-à-dire une dame qui l'aide qui l'aide à noter, etc., et qui l'assiste dans son handicap au milieu des autres. Il me racontait chaque jour qu'il lui était arrivé telle chose, ou qu'elle avait fait telle bêtise, ou qu'elle avait bouché les toilettes en mettant ses gants dedans, et il me racontait surtout les choses que lui faisaient faire les autres. Alors, moi, je lui ai expliqué que Lucie était différente, c'est pas son vrai nom, Lucie.
Non, c'est parce que dans le livre, elle s'appelle pas comme ça, mais bon, ouais. J'ai...
qu'elle était différente et qu'il fallait la protéger. Il fallait pas laisser les autres se moquer d'elle, etc. Et après, je me suis interrogée sur pourquoi à cet âge-là, on prenait pas une minute. À cet âge, je suis très réceptif aux douleurs des autres enfants, etc. On prenait pas une minute pour leur expliquer ça, tout simplement, que Lucie, il fallait la protéger.
C'est le bon âge, en fait.
C'est exactement le bon âge. Je me dis, en fait, ça devrait être dès la primaire, le racisme, la différence, etc. Accepter l'autre et l'aider. Parce qu'ils savent pas, en fait. Ils se disent, bah, elle, on lui fait faire ce qu'on veut, on va se priver, elle va faire toutes les bêtises à notre place, et voilà. Et je me dis, et puis pourquoi les adultes ne la surveillent pas plus aussi? Alors il faut bien sûr autonomiser cet enfant-là, mais il faut aussi avoir un œil supplémentaire, parce que et après on se dit bon, mais en même temps elle est contente de faire ces bêtises là que lui font l'œil, parce que ça la met au centre
de l'attention, ouais.
De l'attention. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui va faire du bien ou du mal à cet enfant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais je pense que il y a une prévention à faire.
Alors vos enfants, les enfants cassés, ils ont de la chance parce qu'ils peuvent vous avoir. Mais est-ce qu'on sait combien ils sont en France, tous ces enfants qui n'ont pas accès à des services comme les vôtres?
Je ne sais pas le chiffre exact, mais il y en a des milliers. Ouais, c'est évident qu'il y en a des milliers. Et surtout, il y a plein de déserts aussi, parce que là, on est en plein Paris, quoi. Mais il y a plein de déserts pour des enfants comme ça, quoi.
Voilà, et puis...
Et les parents sont obligés de prendre souvent des relais incroyables, ou créent même une école.
C'est en ça que votre livre est très important, parce qu'il illustre la place des parents et ce qu'ils vivent aussi. Hein.
Oui, ouais, les parents et surtout les mamans, parce que comme j'explique beaucoup dans mon livre et partout, c'est surtout les mamans qui
prennent comme toujours,
ça.
La charge mentale.
Voilà, ouais. Et j'ai toujours trouvé ça inadmissible en général, mais encore plus, c'est elles qui arrêtent de travailler, c'est elles qui vont à tous les rendez-vous, c'est elles qui nous répondent, qui ouvrent la porte, qui sont enfermées avec leur enfant dès le premier jour, enfin, dès le premier jour parfois, c'est terrible.
Imam Bassala, donc votre livre s'appelle À l'école des enfants malades. L'éditeur c'est Kiro, vous le montrez à la caméra, puisque l'émission, vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube de Beurre FM. On va se quitter avec Elton John, Blue Eyes. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi vous aimez cette chanson. Allez-y, ça vous rappelle un souvenir particulier?
Parce que mon amoureux a les yeux bleus.
Ah ben voilà, tout ça. Alors, si votre amoureux...
Et la couverture de mon livre aussi.
D'accord. Et c'est fait exprès, c'est une spéciale dédicace à votre amoureux?
Non, mais c'est vrai que c'est peint comme ça chez lui aussi. Mais bon, bref, c'est une couleur à la mode.
Merci d'avoir été avec nous. Très bon dimanche sur Beurre FM. Like a deep blue sea on a blue, blue day. Blue eyes, baby's got blue eyes. When the far away, and I say, blue eyes holding back the tears, holding back the pain. Baby's got blue eyes, and she's alone. Again, blue eyes, baby's got blue eyes, like a clear blue sky, watching over home.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.